dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste et l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis avec Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Bonjour tout le monde.
Et nous allons poursuivre aujourd'hui la lecture du livre Les Brutes en Blanc de Martin Winkler. Les Brutes en Blanc, qui parle donc de déontologie médicale et de la maltraitance produite parfois par les médecins. Alors, on y va directement avec le deuxième chapitre. Je me dirige vers la table des matières. Voilà, c'est la deuxième partie de la maltraitance médicale en France. Je ne me suis pas trompé, voilà. Et nous allons je vous propose d'écouter le sous-chapitre Attendez, parce que je crois que... Oui, je crois que c'est ça. Escroquerie et petits cadeaux, voilà. L'argent tient un rôle très important dans la relation de soins. Il occupe aussi une grande place entre médecins. Au cours des années 80, alors que j'apprenais à poser des DIU, DIU dispositif... Ah non, j'avais lu la semaine dernière, ça. Non, c'est pas ça. Voilà, donc... Enfin, pas la semaine dernière, mais il y a quelques mois. Quelques semaines.
Mmh. Avec toi.
Intrusion et jugement de valeur. Quand ils entament leur parcours, les étudiants en médecine sont dans leur grande majorité des individus sensibles. Mais de leurs émotions, leurs répulsions ou leurs désirs, il n'est pratiquement jamais question pendant leur apprentissage. Comme en témoignent les blogs et les courriels de jeunes médecins que j'ai l'occasion de lire, et il y en a beaucoup, tout se passe comme si, pendant leur stage hospitalier, on attendait d'eux qu'ils ne s'engagent pas, qu'ils restent émotionnellement aussi distants que possible des patients, ce qui, bien entendu, est impossible. Abandonnés à leur sort, certains font leur maximum pour éviter des questions trop intrusives ou pour les poser avec la plus grande délicatesse. D'autres décident plutôt de les asséner en rafale, de manière mécanique, comme si de rien n'était, ce qui leur permet de ne pas s'exposer émotionnellement et leur donne l'illusion d'avoir ainsi un comportement, entre guillemets, professionnel. Or, depuis le tournant des années 2000, plusieurs études américaines et britanniques montrent qu'au fil de leurs études, beaucoup d'étudiants se désensibilisent et perdent leur empathie. Les causes sont multiples. Le stress professionnel, la tempête de sentiments devant l'intensité de la souffrance humaine et leur impression d'impuissance à la combattre sont facteurs de burn-out, lequel est suivi d'un repli émotionnel destiné à les protéger.
Excuse-moi, là, je suis un peu surprise de cette introduction parce que, aussi loin que remonte ma mémoire ou même de ce que j'ai pu voir comme témoignage très ancien, j'avais pas l'impression que l'empathie était quelque chose de si courant que ça, jamais. Je veux dire, pour les médecins et même que pour les infirmières ou pour les médecins, on leur disait qu'il fallait pas parce que sinon ils feraient un burn-out. Enfin, je veux dire, le fait de dire que ça remonte qu'au début des années 2020, je suis un peu comme de ronde-flanc. Je me dis, comment ont-ils mené cette étude? Est-ce qu'ils ont vraiment fait une comparaison? Et sur la base de quoi? Tu détermines j'imagine que les gens n'ont pas d'empathie. Parce que j'ai l'impression qu'avant 2020, on n'a pas fait d'études. 2020, hein ?
Non, il a dit 2000. 2000.
Ah, 2000. Oui, mais même avant 2000.
Oui, oui, oui. Oui.
Tu vois, ce que je veux dire, c'est que si avant 2000, on n'a jamais fait d'études pour mesurer, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment, le degré d'empathie des médecins, on pourrait. Ah, bah merde, si jamais tout d'un coup tu t'y intéresses, tu dis mince, ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Mais si tu compares pas avec l'empathie dont ils étaient capables auparavant, je peux t'en. Enfin. N'importe qui a vécu avant 2000 peut t'en raconter de toutes les couleurs, ou même on voit plein de, même Knock d'ailleurs, on voit vraiment beaucoup de témoignages comme quoi des médecins, les médecins en général, en effet, perdaient leur empathie de toute façon déjà au fil du temps, même s'ils en ont jamais eu, hein, tu vois. Mais par exemple, même ne serait-ce que les carabins, comment ils sont, ils sont assez dégueulasses, quoi, tu vois, les comment ça s'appelle, le bizutage, si tu veux, qui, enfin, oui. Tout ça, ah, oui, oui, je veux dire, à entendre de ça, on dirait que dans le temps, tu sais, et tout, c'était la calinothérapie, et puis maintenant, non, enfin, depuis 2000, je suis très surprise, je me pose la question que je me pose toujours quand il y a des études de ce genre. Mmh. Comment et en comparaison avec quoi a été menée cette étude? Comment on mesure le degré d'empathie des gens? Et surtout, quand on dit ça démarre en 2000, est-ce qu'il y a une autre étude où, d'ailleurs, parce que si, tu vas te baser sur quoi? Je veux dire, je pense qu'on ne met pas ça en flacon. Mmh. L'empathie, donc, ça veut dire sur ce que disaient les gens. Est-ce que les médecins prétendaient être pleins d'empathie avant 2000? Et est-ce qu'on les croyait sur parole à l'époque? Est-ce qu'on les croit plus sur, enfin, est-ce qu'on les croit maintenant sur parole quand ils disent, moi, j'en ai rien à fiche, et tout. Et qu'avant, ils disaient, oh non, mon cœur se brise quand je vois quelqu'un qui a un rhume. Si tu veux, ça me paraît, je suis très, très, circonspecte sur l'idée, non pas qu'ils aient pas d'empathie, mais qu'ils en aient plus jamais en avoir. Voilà. Je sais pas si tu remontes même au médecin malgré lui, à Knock, ou tu vois, enfin, je veux dire,
oui, c'est
pas le médecin malgré lui, je raconte n'importe quoi. Comment ça s'appelle ce truc sur les toubibs qu'il a fait Molière? C'est pas le médecin malgré lui, je confonds.
Non, c'est.
C'était.
Oui, il en a fait plusieurs, j'ai l'impression.
Oui, il en a fait plusieurs, où effectivement, il moquait le manque d'empathie des
médecins.
Des médecins, ouais. Et le fait qu'ils étaient intéressés par le pognon.
Et leur incompétence aussi, beaucoup.
Aussi.
Alors, oui, bon, alors donc, eh bien, oui, donc je reprends la lecture. Ce phénomène, aujourd'hui bien connu, hors de France du moins, explique, sans le justifier, que de nombreux praticiens apparaissent comme insensibles ou à peine concernés par ce que les patients leur disent. Cette insensibilité affichée est, le plus souvent, une posture défensive. Réagir, c'est montrer qu'on est touché, c'est un signe de faiblesse. Or, on enseigne aux médecins qu'ils doivent être forts, puisque les patients sont faibles. Ne pas réagir, c'est montrer qu'on est fort. Cela sert l'image que beaucoup de médecins veulent donner. Ça ne sert pas l'établissement d'une relation de soins.
Bah, là aussi, quand même un commentaire, puisqu'on est sur la critique de la psy. Le diagnostic sur les motivations, sur ce que ressentent en réalité des médecins qui ont l'air de s'en foutre pas mal de toi, que dans le fond de leur petit cœur, en réalité, ils sont bouleversés, mais qu'ils veulent pas le montrer. Mmh. Mais il y a des fois où j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont rien à montrer qu'ils montrent rien. Et donc, c'est très difficile d'établir un diagnostic de ce genre. Et j'ai l'impression que il est médecin lui-même. Faut quand même, tu n'as pas présenté à nouveau le Martin Brinkler. Peut-être qu'il serait bon de le redire, parce que il y a des gens qui ont pu rater les épisodes précédents.
Tout à fait.
Donc tu peux présenter peut-être Martin Brinkler. Je trouve que ce bouquin en tout cas pour moi, je l'avais pas lu avant. En tout cas, c'est très très intéressant. Même quand je suis pas d'accord, je trouve ça très stimulant de toute manière. Donc vas-y.
Oui, en effet, on avait oublié quand même de présenter l'auteur. Alors, né en 1955, Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008. Romancier, essayiste et critique, il est l'auteur de La maladie de Sachs, Le cœur des femmes et Les histoires de Franz. Il vit désormais au Canada, où il participe à la formation des futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Donc voilà, c'est un praticien quand même. Alors, et même si certains affichent une, entre guillemets, insensibilité défensive, Cela n'explique en rien le caractère inquisiteur et agressif que rapportent beaucoup de patients et de patientes en gynécologie.
Ah, en particulier, oui.
L'obstétrique est elle aussi l'un des hauts lieux de la maltraitance médicale.
Alors là, je confirme. Hein. Et je veux dire, c'est terrible parce qu'on en a parlé dans une autre émission. Mais quand tu n'as pas de fric, tu ne peux pas choisir ton gynécologue. Tu es obligé de prendre celui qu'on te donne à l'hôpital. Mmh. Et franchement, ben, moi, j'étais tombée sur un... En plus, j'ai horreur de l'idée de tomber sur... d'avoir un gynéco qui soit un homme, quoi. Mais quelqu'un qui a du fric peut choisir une femme. Quelqu'un qui n'en a pas, il prend celui qu'on lui donne. Et le mien, ben, par exemple, il te met un spéculum, on aurait dit qu'il plantait une banderie. Mmh. Je ne te dis pas, tu recules de 2 mètres, ça. Tu recules de 2 mètres sur la table de gynécologie. Mmh. Et quand t'es pas contente, il t'engueule, quoi. Chuchote, etc. Non, non, c'est vrai, je pense que beaucoup de... Il y a d'ailleurs, je t'avais dit que je retrouverais les coordonnées, mais on peut trouver ça, je pense, sur Info Kiosque. Il existe, ou même en tapant ça, un collectif de défense, si tu veux, contre les abus, pas seulement sexuels, hein, gynécologiques, pour justement tout ce qui est la maltraitance en général. Mmh. Il existe un collectif qui est spécifiquement dédié à ça et qui, entre autres, informe les femmes pour pas qu'on leur raconte totalement n'importe quoi, tu vois. Voilà.
Bon, oui, c'est le nom de ce collectif, peut-être la prochaine
fois. Oui, mais enfin, je pense que si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous devriez pouvoir. D'accord. Mais la prochaine fois, je ramènerai ça, ouais. Et puis je vous dirai ce qu'il en est exactement. Ouais.
À travers les témoignages recueillis sur mon site internet, écrit Martin Winkler, beaucoup de femmes disent avoir fait ou faire encore l'objet de questions nourries sur leur vie sexuelle ou leur situation socio-économique. Et cela sans lien avec les raisons qui les ont conduites à consulter ou les questions qu'elles désirent aborder. Ce qui devait être un échange se transforme alors en interrogatoire policier doublé de jugement de valeur à l'emporte-pièce. Vous avez 25 ans et vous prenez déjà la pilule depuis 10 ans ? Vous êtes folle, vous voulez faire un cancer, c'est ça ? Comment ? Vous avez 30 ans et pas encore d'enfant, il serait temps d'y penser. D'autres commentent sans délicatesse la situation personnelle de la femme. Une jolie fille comme vous, vous vivez seule ? Quel dommage ! Combien de partenaires sexuels avez-vous en ce moment ? Quoi ? 2 ? Et vous vous protégez ou vous êtes inconsciente ? Ou alors, ouais, ben si vous n'avez pas de mec, c'est pas étonnant que vous ayez décidé d'avorter. Ce genre de jugement de valeur, beaucoup de patients et de patientes les subissent en consultation de gynécologie. Et il peut s'agir aussi bien de remarques désagréables que de commentaires graveleux sur leur manière de s'habiller, leur coiffure, leurs sous-vêtements, le fait qu'elles portent des tatouages ou des piercings, la taille et la forme de leurs seins, de leurs fesses, les vergetures, la cellulite. Chaque fois que j'allais chez ce gynécologue, me racontait une internaute, il me faisait déshabiller entièrement et, avant de me faire monter sur la table, il me demandait de rester debout, nu devant lui, et il tournait autour de moi en m'examinant sous toutes les coutures. Même quand j'y allais pour renouveler ma pilule. Au début, je n'y ai pas fait attention, mais à force, j'ai trouvé ça détestable. La dernière fois, pendant que j'allais demander un autre rendez-vous à la secrétaire, il est entré dans le bureau de son confrère et il s'est mis à lui décrire mes seins. Je les ai entendus rire. La secrétaire était pétrifiée. J'ai compris que ça n'était pas la première fois qu'elle entendait ça. Je n'y suis jamais retourné. Jugement, entre guillemets, freudien, à l'emporte-pièce. La France est l'un des rares pays du monde, avec l'Argentine, allez savoir pourquoi, où la psychanalyse occupe encore une place prépondérante dans les discours de l'élite dominante. Dans les médias, on interroge les psychanalystes à tout bout de champ pour commenter les actes des hommes politiques, des stars, des sportifs et bien sûr des comportements de monsieur et madame tout le monde dans les émissions de télé-réalité. La psychanalyse est invoquée pour expliquer, entre guillemets, plus exactement pour commenter et juger, le succès de 50 nuances de Grey, telle ou telle mode et bien entendu les effets délétères des jeux vidéo sur les enfants et les adultes de tous âges. En revanche, on entend plus rarement les psychanalystes s'exprimer sur le comportement d'un industriel du médicament ou d'un magnat de la presse. Et on ne les entend jamais On ne les entend jamais sur les comportements des médecins, à moins qu'ils ne soient déjà en prison pour meurtre ou pour viol, ni surtout au sujet des autres psychanalystes. Longtemps en France, seuls les médecins purent se former à la psychanalyse. Jacques Lacan et Françoise Dolto...
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, oui. Sur les autres psychanalystes, oui. Mais alors, les psys qui se tirent la bourre, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, mais il y avait un copain qui m'avait raconté qu'à un congrès, ils en étaient venus carrément aux mains, et en particulier enfin, sur les différentes méthodes, quoi. Même entre, tu sais, les différentes factions, lacanien, freudien, rétien, enfin, etc., qu'ils se tirent carrément. Donc, dire qu'ils ne se critiquent pas les uns les autres, ou même la concurrence, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Je pense que si, un petit peu, hein, quand même beaucoup. Mmh. D'ailleurs, dans le bouquin de Gérard Hoff, Je ne serai plus psychiatre,
oui.
Il évoque carrément c'est le genre de bagarre qu'il peut y avoir entre, d'ailleurs, dont il a été lui-même victime, entre des psys qui n'ont pas du tout la même version des choses. Donc, je pense que. En plus, je ne sais pas si ça compense. Le fait qu'ils se bagarrent aussi entre eux, le fait que de faire des diagnostics en général, comme ça, à l'emporte-pièce sur les gens, quoi. Mais je sais pas pourquoi ils se bagarrent comme ça. C'est très possible que d'ailleurs ça soit aussi, par exemple, en ce qui concerne le fait que les psychanalystes qui, justement, sur l'argent, ils prétendent qu'il faut que tu payes parce que sinon, ça marchera pas. C'est pour toi, c'est pour le patient. Je te jure qu'ils disent ça.
Oui, bah,
il faut que tu payes, sinon...
Il y a l'effet, c'est une espèce d'effet placebo autour de le fait qu'on on paye, ça...
Il y a surtout un effet qu'ils n'ont pas envie que tu ne payes pas.
Oui, c'est vrai aussi.
Il faut que tu payes un maximum, parce que sinon, tu comprends, ça aura pas... Ça ne marche pas si tu ne me payes pas ma maison de campagne, tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça. En effet, c'est bien sûr que c'est pour le pognon. Tu t'imagines un peu ce que ça rapporte. Et est-ce que tu t'imagines, tu étais là, tu mets ta petite échoppe de psychanalyste à boule la thune et tout, et à côté de toi, t'as un autre camelot qui s'amène et qui te promet de te guérir de ton symptôme handicapant, on va dire, je sais pas, t'es agoraphobe ou quoi, en pas longtemps et pour pas cher. Ben écoute, évidemment que t'es pas content, tu penses, ils sont verts, quoi, verts. Et alors que ça doit durer sur 10 ans, 20 ans, en payant un maximum, et en plus, excuse-moi, ça marche pas non plus.
Oui, oui.
D'ailleurs, ça marche mieux, en général, même les thérapies comportementales, bizarrement, marchent mieux que la psychanalyse. Donc tu vois, c'est quand même un truc, donc ils se tirent la bourre. Et l'argent est quand même, comme pour les médecins, les psychanalystes, effectivement, motivés par l'argent, oui, bien sûr, enfin, je dirais comme tout le monde, mais qui peut croire qu'ils font ça que pour l'amour de l'humain, quoi, tu vois, pour te rendre service et tout ça, quoi.
Certes.
Voilà.
Longtemps, en France, seuls les médecins purent se former à la psychanalyse. Jacques Lacan et Françoise Dolto étaient médecins tous deux. En 1950, le Conseil de l'Ordre porta plainte contre Margaret Clark Williams, psychanalyste qui n'était pas médecin, pour exercice illégal de la médecine.
Ah.
Aujourd'hui encore, il existe une rivalité non masquée entre les psychanalystes médecins et ceux qui ne le sont pas. Pour les patients qui n'ont jamais affaire à eux, il pourrait sembler que les psychanalystes n'ont pas beaucoup d'importance en médecine. Or, c'est tout le contraire. En effet, l'omniprésence de la psychanalyse dans la pensée médicale française a compromis gravement le développement et surtout la vulgarisation et la diffusion des psychologies fondées sur une approche scientifique, thérapie comportementale et cognitive, psychologie évolutionniste. La différence principale entre la psychanalyse et les psychologies scientifiques réside dans leur base théorique et leur méthode de recherche. La psychanalyse a pour fondement théorique les écrits de Freud et comme méthode de recherche, les commentaires qu'en font les psychanalystes d'hier et d'aujourd'hui. Le Nouveau Testament et ses exégèses, en quelque sorte. La psychologie scientifique, elle, étudie la psyché humaine à partir des comportements et du fonctionnement observable du cerveau, soit en situation, au contact d'autres individus ou de situations expérimentales données, soit au moyen de scanners qui visualisent les zones cérébrales actives quand une personne pense à une chose ou en fait une autre, ou ressent une émotion au vu d'une image ou d'un son, par exemple. Ouais, alors là, je ferai une parenthèse, c'est que quand même la situation de faire quelque chose, quand tu passes en IRM, là, dans les appareils, ne reproduit pas exactement, la situation n'est pas vraiment reproduite d'une spontanéité dans le geste ou dans la pensée, étant donné que tu as quand même un... le scan, c'est bon, t'es dans un environnement très bruyant en plus, parce que ça fait beaucoup de bruit, et puis t'es allongé, etc. Donc, c'est pas...
Oui, mais il y a aussi que, ben, par exemple, par rapport à ça, juste une parenthèse, par rapport, pour être psychanalyste, la condition, c'est d'avoir fait une psychanalyse. D'ailleurs, je vois pas très bien comment tu vérifies qu'est-ce que t'as fait pendant cette psychanalyse, mais soi-disant une psychanalyse réussie. Bon, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bah, comme je lisais dans le bouquin de Janoff, qui est un vrai connard, et qui est, par exemple, violemment homophobe, etc., qui pense que c'est une maladie, mais qui a créé une thérapie qui a eu beaucoup de succès, mais qui a fait beaucoup de dégâts, quoi. Mais lui, il disait, sans vergogne, mais ça paraît logique, que la condition, tu peux être médecin et malade, mais pour être psy, il faut que tu sois un modèle de normalité et d'équilibre, tu vois. Donc déjà, malgré tout, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais un psychiatre est un médecin qui a fait une spécialisation. C'est des médecins. Donc, si tu veux, quand on avait commenté le livre sur les médicaments et les abus de autour de ça, les inventeurs de maladies.
Oui.
Voilà. Eh bien, évidemment, les abus médicamenteux, on l'a commenté, et tu peux avoir aussi des mauvais médecins qui te donnent des médicaments qui sont inappropriés, qui ont des effets secondaires bien pires que ce que c'est censé soigner. Mais c'est une science, c'est-à-dire que on peut pas le nier. Il y a des drogues et des médicaments qui ont un effet somatique. Tu peux pas, c'est pas de la poudre de perlimpinpin et même pas de la poudre. C'est pas du pur charlatanisme comme tout ce qui est psy. Sans médicaments, tu vois, ça c'est juste du foutage de gueule, quoi. Tandis qu'à la limite, tu te dis, t'as une capacité d'écoute et les gens, ça leur fait du bien de te parler, c'est pas une science, c'est une qualité, qu'ils ont pas toujours, pas plus que des gens qui ont fait aucune étude, hein. Mais c'est pas un truc qui est mesurable ou quoi. Alors que, en effet, ce qui est de l'ordre de la médecine, c'est-à-dire des médicaments, ben, tu te dis, il y a même pas d'effet placebo, on te donne un somnifère, t'es même pas au courant, tu vas dormir. Mmh. Tu envoies un animal un calmant, il va se calmer. Enfin, tu vois, à l'inverse, on t'injecte de l'adrénaline et tu vas te foutre en pétard. Enfin, tu vois, et je veux dire, tous ces les médicaments ont un effet réel. Après, est-il approprié, c'est une autre question, mais c'est un effet réel. C'est pas un truc complètement abstrait comme tout ce qui est d'ordre soi-disant purement psy, tu vois. Et donc une fois que t'as fait, en effet, pour en venir à ce que t'as dit, une fois que tu as fait un scanner ou quoi, bah il reste à savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Tu vois, je veux dire, c'est pas le tout que
oui, t'as des informations, mais
t'as l'information et maintenant qu'est-ce que tu fais. Ouais. Voilà.
Une autre approche scientifique, la psychologie évolutionniste, considère que les humains sont des animaux, que leur cerveau a été modelé par l'évolution et que beaucoup de nos comportements sont très similaires à ceux des autres mammifères. Elle analyse certains comportements humains à partir de ces similitudes. Des chercheurs tels le primatologue Franz de Waal, par exemple, ont montré que des mammifères comme le chimpanzé ou l'éléphant sont doués d'empathie et ont des comportements altruistes, que ces comportements ne sont donc pas réservés à l'espèce humaine. Pour la psychanalyse, il n'est jamais question de remettre en cause les paroles de Freud et en France de Lacan. Leur parole, si impénétrable soit-elle, est un dogme qu'on peut commenter ou interpréter, non réfuté. Les psychologies scientifiques, en revanche, formulent des hypothèses et, au moyen d'expérimentations soigneuses, cherchent à les confirmer ou non. Et quand les expériences ne sont pas concluantes, on le dit et on les refait. Toute proportion gardée, la différence entre la théorie psychanalytique et la psychologie scientifique est la même qu'entre les principes de l'homéopathie inventée par Hahnemann au XVIIIe siècle et la biologie contemporaine. Psychanalyse et théorie hahnemannienne, une fois énoncées, n'ont jamais cherché à se remettre en question. Petite note, au moins la prescription homéopathique est dotée d'un fort effet placebo, justement apprécié par les patients. On ne peut pas toujours en dire autant des jugements émis par les psychanalystes.
C'est vrai. Ben c'est vrai, l'homéopathie. Alors moi, je suis pour l'homéopathie, non pas que je crois que ça marche, je pense que c'est effectivement de. Enfin, c'est vraiment de. Comment dirais-je, le seul. Mais au moins, ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, à moins que t'en prennes des kilos et que t'attrapes le diabète, je vois pas ce que ça peut te faire de mal, quoi, tu vois. Mais, et en effet, ça peut faire du bien d'avoir l'impression, et au moins pendant ce temps-là, tu prends pas un médicament qui pourrait être toxique alors que, ça passerait tout seul. Moi, je suis adepte de la rien-thérapie, et tu fais rien. Tu vois. Non, sauf si t'as vraiment quelque chose, tu vois. Donc quand tu vois que le symptôme persiste, si j'ai un rhume, si les enfants ont le rhume, on attend que ça passe. Et donc je crois même pas, pour ainsi dire, à l'effet placebo. Il faudrait pouvoir comparer avec le fait de rien faire, ce qui est compliqué pour un truc en double aveugle, tu vois.
Oui,
mais je veux dire, le rhume il passe aussi vite avec un placebo qu'en faisant rien.
Oui,
tu vois.
Puis, quand c'est pas trop grave, on a la capacité d'auto-guérison.
Voilà,
quoi.
Mais l'homéopathie est réservée aux cas pas graves. Et je peux te dire, c'est quand même une parenthèse, j'avais fait une recherche, à part quand c'est dans une secte où de toute façon, à la limite, ils auraient des remèdes de rebouteux ou je sais pas quoi, mais il y a eu pratiquement pas, je crois, il n'y a même pas eu aucun scandale. C'est-à-dire que autour de l'homéopathie, tu sais, on dit souvent ça, oui, mais les gens vont prendre de l'homéopathie au lieu d'un vrai remède. Eh bien, c'est pas vrai. Les homéopathes sont des médecins. Donc, quand ils voient que, comme ils savent qu'on les attend en plus au virage, même le mec des laboratoires Boiron n'a jamais prétendu soigner des cancers. Non, ça soigne les symptômes, du coup, tu te sens mieux. Enfin, tu vois, les homéopathes, je connaissais par exemple des mamans quand j'allais au parc avec mes gosses et tout, qui étaient vachement fans d'homéopathie, mais elle disait que quand il y avait quelque chose qui était... Du coup, elle le montrait à un médecin, le gosse. Mmh. S'il y avait un truc qu'il craignait, il n'hésitait pas à les envoyer à un spécialiste, ou même aux urgences, tu vois, ou même à leur prescrire des antibiotiques, s'il y avait besoin, tu vois. Donc, je pense que, du coup, je me dis... Mais il faut y croire, parce que moi qui par exemple y crois pas, ça, je préfère ne rien faire du tout, tu vois. Mais voilà, donc quelque part, ce qui pose là, c'est aussi la question de, que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que les médicaments, d'une certaine manière, ça a un effet sur le corps, tu vois, sauf quand c'est vraiment un placebo, mais est-il approprié? Et on a vu tous les scandales médicaux qu'il y a avec des médecins traditionnels. Enfin, et puis, tout le monde a une histoire à te raconter d'un médecin qui a fait un mauvais diagnostic, par exemple, qui s'estimait capable d'estimer de visu que t'avais pas le cancer et que du coup tu laisses prospérer le cancer. Mmh. Tout le monde a des histoires comme ça, de médicaments inappropriés. Tu vois, donc quelque part, ça c'est un véritable problème, si tu veux. Il y a beaucoup plus de scandales, enfin, tellement plus qu'il n'y a pas de scandale autour de l'homéopathie, quoi, tu vois. Avec la médecine traditionnelle, des scandales parce que ça s'est mal passé. Et je pense qu'effectivement, des psys qui te donnent un médicament, enfin, moi j'en ai eu un quand j'étais petite, ils m'avaient donné un médicament où j'étais un vrai légume, quoi, tu vois. Je sais pas si ça a eu, mais en plus c'était un truc avec un principe actif puisque ça avait vraiment effet sur moi. Et est-ce que c'est bien bon en pleine croissance de se retrouver avec un médoc dont tu sais même pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois? Donc voilà. Continue, excuse-moi.
On est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération Anarchiste, et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, on est en train de lire Les Brutes en Blanc de Martin Winkler. D'ailleurs, un livre qu'on est en train de, on va le dire, découvrir au fur et à mesure de sa lecture.
Absolument.
Voilà. Et l'effet le plus pernicieux de la suprématie psychanalytique en France apparaît dans la propension qu'ont beaucoup de médecins français, y compris quand ils ne sont pas psychanalystes, à décréter qu'ils savent ce qu'un patient pense, même et surtout si ses pensées sont inconscientes. Comme s'il pouvait les lire. Cette incroyable vanité, car il s'agit de ça, plus encore que d'obscurantisme, conduit ainsi des praticiens à prononcer au sujet de chaque parole ou de chaque geste de patient des interprétations qui sont autant d'oracles. Mmh. Une femme déclare à son médecin qu'après l'accouchement, elle ne désire pas reprendre la pilule, mais utiliser des préservatifs. Réaction du médecin : vous êtes castratrice. Un homme souffre d'impuissance. Pour le médecin, c'est son inconscient. Il a trompé sa femme et se punit. En réalité, il souffre d'artérite des membres inférieurs, ce que le médecin aurait pu diagnostiquer rien qu'en lui prenant le pouls aux chevilles. Une vieille dame aphasique ne veut plus manger. Elle régresse au stade infantile. Non, elle a un abcès dentaire. Une fois l'abcès traité, elle se remet à dévorer. Des exemples comme cela, je pourrais en énumérer des centaines. Je finirai simplement par celui-ci. À une rencontre où l'on m'avait invité à parler de contraception, j'entends des médecins que je croyais bien intentionnés dire « Oui, bon, mais quand tu prescris un stérilet ou un implant, tu te rends compte que c'est une violence imposée au désir inconscient des femmes d'être enceintes. Mmh. Au moins, celles qui prennent la pilule peuvent l'oublier et satisfaire leurs pulsions refoulées. » Stupéfait, j'ai répondu qu'il ne me venait jamais à l'esprit de deviner les désirs inconscients des patientes. Mmh. Lorsqu'elles me disent avoir l'esprit plus libre avec un implant ou un DIU et qu'elles ont moins peur d'être enceintes, je me contente de les croire sur parole. Alors, DIU, c'est un dispositif intra-utérin. C'est l'équivalent du stérilet, en fait. En fait, ils n'utilisent pas le mot stérilet parce que justement, ça, le stérilet ne rend pas stérile. Donc, c'était la petite note. Oui, mais bien sûr, il ne faut pas croire tout ce que disent les patients, entre guillemets, ce qu'on dit sans doute dans les milieux, dans les études médicales, ou je ne sais pas quoi. La posture psychanalytique, de nombreux médecins français peuvent être franchement désastreuses quand elle énonce des jugements arbitraires, cruels, définitifs.
Il faut dire que, de toute manière, pour en parler justement des psys, et de ayant été la compagne d'un psy qui me faisait des heures gratuites comme ça de psy, quand il me disait que j'avais telle raison inconsciente de faire ci ou ça, que ce soit le médecin ou que ce soit qui que ce soit qui te dit ça, t'es un peu court-circuité. Enfin, je veux dire, comment tu peux prouver, même de toi-même, t'es un peu déstabilisé. Tu dis, si ça se trouve, peut-être. Et si tu as une dénégation, c'est que t'es dans le déni. Tu vois, tu dis, non, pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression. Mais, t'es dans le déni, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc qui est redoutable, en réalité. De te dire que t'es comme ci ou comme ça inconsciemment. C'est inconscient, je dis, mais je crois pas que. Ah, mais c'est parce que c'est inconscient, donc tu le sais pas. Mais moi, je le sais. Je sais mieux que toi ce que tu ressens dans ton tréfonds. Et toi, si tu crois vraiment toutes ces foutaises, je veux dire, c'est quelque chose de très, très déstabilisant. Voilà.
L'une des pires situations est celle en particulier des mères d'enfants autistes qui, en plus de devoir faire face à une situation familiale et éducative extrêmement difficile, se sont longtemps entendu dire qu'elles étaient responsables, inconsciemment bien sûr, de la souffrance de leur enfant.
De toute façon, ça c'est un truc, c'est la faute de la mère, je peux te dire que j'en sais quelque chose. C'est que, ayant en particulier un enfant qui faisait l'école buissonnière à répétition, là aussi ils n'ont pas imaginé que, enfin, ils disaient sûrement il y a une raison, c'est rapport à la mère et tout. Or, lui c'était rapport à l'école parce que, après tout, est-ce que c'est vraiment une maladie de vouloir se tirer de l'école, quoi, tu vois. Mais ils étaient toujours, effectivement, et c'était sur moi, parce que le père était là aussi quand on nous convoquait, mais c'était sur moi. Et avec des diagnostics, mais complètement à l'arrache aussi, quoi, tu vois. Et par exemple, à un moment donné, j'avais dit, mais mon fils, il est jamais seul. En fait, il faudrait qu'il soit peut-être un petit peu plus seul, j'en sais rien, mais qu'il apprenne un peu la solitude. Mais il est jamais seul. Et alors là, la psy me saute sur l'orable et elle me dit, oui, c'est ça, vous ne voulez pas le laisser seul. Je lui dis, mais je le laisse seul très souvent. On est trois, il est tout seul. Donc, il n'est pas seul parce qu'il est soi. Avec son frère, soit avec son père ou avec quelqu'un d'autre, mais moi je suis pas tout le temps là. Mais tu vois, direct, c'était la mère et tout qui veut pas le laisser. Alors là, en plus, ça c'est vraiment le truc, la mère possessive qui veut pas laisser son enfant être ça c'est vraiment le truc, parce qu'en plus ils ont vraiment des grilles comme ça et des trucs de langue de bois, des trucs tout tout fait comme ça. C'est, et ou l'inconscient généalogique aussi, on avait, qui nous avait, c'était tout un aréopage et il nous avait fait ça. Ah, d'accord, votre à moi, votre frère s'appelait pareil que votre père, son prénom. Donc c'est pour ça. Alors, un truc, mais complètement farfelu. Donc on a dit ah bon, oui, mais bon, je connaissais en plus la théorie de, tu sais, de l'inconscient comme ça généalogique, mais je lui dis. Je ne suis pas très convaincue par cette théorie. Oui, mais c'est pareil, vous êtes dans le déni. Oui, c'est vrai que c'est très, très pénible. Comment tu peux prouver que ton innocence, je dirais, là-dessus, c'est complètement impossible sur tes désirs inconscients. Même toi, tu dis, j'ai pas l'impression, mais peut-être qu'en effet, c'est parce que je suis dans le déni, peut-être, oui.
Ouais, puis le principe même qu'on te parle de quelque chose de, alors qui t'est complètement étranger, mais qu'on te dit que ça vient de ton inconscient, c'est déjà, bah, en fait, on peut ça peut faire tout dire en fait, ça peut faire, de parler comme ça. Quoi.
Bah oui, tout à fait. Et puis il y a un truc qu'ils aimaient pas les psys en général à qui j'avais affaire, enfin pour les enfants, parce qu'il y en avait un autre, enfin le plus grand, quand il avait 3 ans, il y avait le psy de l'école et il nous dit quand ça l'intéresse pas, il écoute pas. J'ai dit, je vous dirais que
c'est un peu,
pas une maladie orpheline.
C'est pas mystérieux, en tout cas.
Non, pas vraiment. Mais le truc qu'ils aimaient pas, en général, c'est que, vu que mon ex était psy, ben c'est con, mais je m'y connais beaucoup en psy. Parce que, non pas que je lisais forcément les bouquins, mais j'avais un débriefing, si tu veux, sur des bouquins, des fois même très originaux. On va dire les thérapies systémiques, l'impensée généalogique, tous ces machins-là, je connais. Et quand ils se rendaient compte de ça, ils étaient verts. Parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient bien te prendre de haut avec un savoir.
Avec leur petite valisette de
voilà,
savoir.
Voilà, de savoir. Ouais. Et si tu dis oui, mais je vois, mais je suis pas d'accord, parce que ça, ça et ça sur tel point... franchement, je les voyais qui se regardaient à la limite de la panique, quoi. Tu vois. Enfin.
Voilà. Les diverses formes de troubles cognitifs apparentés à l'autisme font l'objet de nombreuses recherches, et s'il y a bien une chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'il s'agit d'un trouble du développement neurologique dont l'origine est encore inconnue. Pas du résultat d'une maltraitance maternelle in utero. J'ai vécu de près une situation similaire au cours de laquelle une adolescente qualifiée d'anorexique, soupçonnée de se faire vomir en cachette, c'était faux, était accusée, à mots à peine couverts, d'avoir des pensées impures pour son père. Ledit père, qui ne vivait pas avec sa fille, avait eu droit aux mêmes accusations définitives. Si sa fille allait mal, c'était forcément à cause d'un comportement, entre guillemets, séducteur de sa part. Les psychiatres qui avaient posé ce diagnostic audacieux ne devaient pas y croire eux-mêmes, car ils décidèrent du jour au lendemain que l'adolescente n'avait plus besoin de soins. Allez comprendre. La violence de ce type de « diagnostic » entre guillemets n'a d'égal que son caractère irrationnel. Dans la plupart des pays développés, psychologie et psychothérapie sont fondées sur des travaux scientifiques constamment remis en question et réévalués. C'est pour cette raison que les professionnels de santé britanniques et américains ont rayé l'homosexualité du registre de la psychiatrie. Si les psychanalystes avaient eu leur mot à dire, elle y serait encore.
Je te dis, Janoff, il a un chapitre entier pour expliquer que grâce à sa thérapie, tu peux pas être homosexuel car parce que c'est une maladie, c'est une névrose. Tu vois. Mais le fait est que moi, de toute façon, même le fait de dire que tu te remets en cause en tant que psy, c'est vu, enfin, je t'ai dit mon point de vue un peu radical sur la question, je pense qu'un bon psychanalyste est un psychanalyste mort. Voilà.
D'ailleurs, Janoff, on aura peut-être l'occasion d'en parler au cours d'une émission.
Non, mais c'est encore un cas, ouais.
Le plus stupéfiant dans l'attitude consistant à accuser les patients d'être les jouets de leur inconscient, c'est qu'elle laisse entendre que les médecins, eux, n'ont pas de pensées mauvaises ni de désirs tordus. Bref, qu'ils n'ont pas d'inconscient. Il n'est évidemment pas possible de dire ce qu'un médecin pense, mais quand il assène verbalement des jugements négatifs aux personnes qu'il est censé soigner, on est tout à fait en droit de penser et dire qu'il est malveillant et maltraitant et qu'il trahit sa mission. En pleine conscience, donc.
Bah, surtout que pour le médecin, je veux dire, un médecin, tu lui demandes justement, tu vas voir un psy, je pense effectivement que c'est un charlatan, mais si tu y vas, il fait ce qu'il est censé faire. Faut pas que tu te plaignes qu'il soit là à essayer de décortiquer ton inconscient. C'est un peu ce que tu es venu demander, tu vois. Mmh. Tandis que le médecin, tu lui demandes juste de soigner un symptôme, tu vois. Bah, il y a un truc aussi que je pense par rapport aux interprétations comme ça. Et parce que des fois, c'est compliqué simplement de se dire, on n'en sait rien et on ne sait pas. Et c'est les bébés. Parce que comme on ne peut pas interviewer le principal intéressé, et qu'on n'a aucune mémoire, évidemment, de ce qu'on pouvait ressentir à l'époque, et ben quand un bébé, tu vois, beaucoup, je me rappelle qu'il y avait des mamans qui étaient... mais pourquoi? Et qu'elles étaient là à se perdre en conjectures. Sauf que c'est des conjectures que tu peux jamais... Sauf quand il y a un problème physique. Et à ce moment-là, donc, ce que c'est pas la question de l'inconscient du bébé, tu vois, puisque. Mais par exemple, quand beaucoup s'accordent à dire que quand le bébé naît, c'est un traumatisme, c'est une horreur. Mais on n'en sait rien du tout. Peut-être qu'au contraire, il ressent une impression de délivrance. Il en avait marre d'être à l'étroit dans sa prison. Et il ressent quelque chose de très, très positif, d'être libéré, de découvrir des tas de sensations. Il pleure parce que nous, on interprète que c'est un pleur de détresse, mais c'est pas, il n'a pas tellement d'autres moyens d'exprimer, de toute façon, quoi que ce soit qu'il ressent. Et quand y a des bébés qui pleurent beaucoup, et qu'on cherche les raisons physiologiques et qu'on ne les trouve pas, alors là, je ne te raconte pas toutes les théories qui existent pour dire que c'est parce qu'il ressent ci, c'est parce qu'il ressent ça, que sa mère, probablement, ayant du stress, il ressent le stress de la mère, ou que c'est... Enfin, ont des tas de théories comme ça, mais... je veux dire, on n'en sait rien, quoi. Tu vois, tu peux te dire. Et puis souvent, enfin, à part si t'as vraiment, il y a vraiment un problème physiologique très grave, qu'à ce moment-là, je pense dans la plupart des cas, tu vas détecter. Je pense à un enfant comme ça qui était trisomique et qui avait un bébé et il avait des problèmes digestifs. Enfin, je veux dire un système digestif qui était mal fichu. Et quand il criait, c'était qu'il avait un début d'inclusion, quoi. Donc là, dans ces cas-là, tu peux diagnostiquer. Quand il pleure et tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, quoi. Oui. Je veux dire, tu peux toujours te casser la tête, mais les raisons psychanalytiques, tu peux. En plus, c'est pas l'intéressé qui dira qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Tu vois, donc, mais c'est vrai que il y a un truc qui est assez connu. D'ailleurs, il y a eu un scandale aux États-Unis où tu avais tout un tas de psys. Qui, tu sais, les souvenirs implantés, où il y avait une explosion de gens qui disaient les psys les poussaient à avoir des souvenirs qu'ils auraient eu des abus. Donc on a flanqué des tas de gens en prison pour ça, et on s'est rendu compte que en fait dans la méthode qu'ils avaient, les psys, ils induisaient complètement ce truc-là, quoi.
C'est-à-dire des vécus qu'ils auraient pas eu.
Oui, qu'ils n'avaient pas eu vraiment. Ouais, mais de toute manière, quand tu vois comment ils essayent de te diriger, c'est un truc qui, effectivement, au bout d'un moment, tu vas, comme dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, la jeune fille, sûrement, a subi un truc de la part de son père, j'avais pas l'impression. Si c'est un climat incestueux, ils appellent ça, alors c'est le truc super dur à démontrer que non, quoi, tu vois. Et en effet, c'est vraiment assez redoutable parce que tu peux pas démontrer que c'est pas vrai, quoi.
Ouais. Ça me rappelle un chapitre de Knock, si vous voulez. Il dit à une de ses patientes, vous êtes tombée d'une échelle quand vous étiez petite.
Vas-y, rappelle le truc.
En fait, elle était... elle n'était pas du tout tombée d'une échelle, mais il lui met dans l'esprit que, mais bien sûr,
oui, voilà, oui, d'une échelle. En plus, quelqu'un qui te parle, il a son statut et il te parle catégorique. Moi, je veux dire, j'aurais pas été déjà un peu briefé sur la question du psy. Je me serais effectivement demandé si c'était pas que j'étais trop possessive. Et puis, en plus, comme ils avaient quand même noté, j'avais vu par-dessus l'épaule comme ça d'une espèce d'assistante sociale comme ça. Quoi, on nous avait dépêché parce qu'il séchait l'école. La mère semble hostile aux institutions. Ce qui est pas... Enfin là, par contre, je pense que c'était un bon diagnostic, mais bon.
Voilà. Eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire, toujours. Et nous, bah, on va finir l'émission avec un dernier sous-chapitre de ce...
T'aurais pas mis une petite, petite zic, non ?
Allez, on a le temps. Oui, voilà.
Mettre conture.
Courge.
Courge. Donc Matt Conture, dessinateur génial de BD anarcho-punk, par exemple Sclérose en plaques, en vente à Publico, et qui a fait un groupe tout seul, enfin avec des fois il invite des copains, et qui s'appelle Courge. Je vous préviens, c'est un peu spécial quand même.
Thank you.
Ouais, donc, bah oui, d'habitude, il chante. Hein. Je préfère quand il chante, quand même, parce qu'il fait des chouettes paroles, je trouve. Mais justement, on se rappelait avec Denis, dans les BD, comme ces BD, elles sont, il dessine, enfin, génialement, c'est un génial dessinateur. Hein. Mais à part ça, il expliquait que, comme il a la sclérose en plaques maintenant, avant que sa sclérose en plaques soit diagnostiquée, les médecins lui ont fait, il avait des symptômes extrêmes, enfin, des douleurs, des symptômes vraiment très, très... Enfin, la sclérose en plaques, c'est pas une maladie psychosomatique, hein, mais qu'en effet, je pense qu'en le voyant, parce qu'il a un look qui est quand même assez spécial, il a des cheveux très 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 long et emmêlé quoi, mais vraiment très long, avec une coiffure bizarre, et puis il a un look, enfin il a, on voit bien qu'il est un peu bizarre quoi, donc je pense que rien qu'en le voyant, les médecins devaient se dire celui-là c'est dans la tête, donc ils disaient c'est dans la tête, et mais il y a quand même un médecin qui a pensé qu'il pouvait y avoir une raison à ses douleurs, c'est qu'il secoue la tête, ça s'appelle ça headbanger.
Headbanger, oui.
Voilà. C'est... Donc il secoue la tête quand il danse dans une poubelle ou ailleurs. Une danse punk et tout, et que c'était la danse punk qui était responsable de ses douleurs. Voilà. Donc, oui, c'est. De toute façon, je pense qu'on a tous eu des droits comme ça, des diagnostics à l'arrache, comme ça, et c'est très très pénible, parce que, ben, même quelqu'un que tu connais très bien, avant de te dire il est triste parce que ça ou ça, c'est que tu le connais très bien. Mais eux, ils ont un regard à rayon X qui sait que tu ressens ci, tu ressens ça. C'est fou.
Alors, ce qu'on vient d'entendre de Courge, là, ça s'appelle bucolique, cosmique, psychosonique, session psyché, à l'époque de la fête psyché chez Stéréo Sergio.
Voilà, comment veux-tu qu'après un médecin ne dise pas « Monsieur, c'est dans la tête
» Et donc à 10h25, on a pas beaucoup de choses à lire avant la fin de l'émission. Sinon que, bah, on peut aller bon, un paragraphe et puis on, c'est pas grave, on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Là, c'est sur vraiment l'aspect corporel des patients. Alors, c'est cacher ce corps que je ne saurais voir. Les violences verbales, assorties ou non d'interprétations sauvages, sont particulièrement intenses quand le corps des patients et des patientes ne correspond pas à l'idéaliste esthétique ou physiologique des médecins qui se posent alors en héros du bon goût. Début 2016, le site de Libération publiait un article « Maud et Elsa, grossophobie médicale, c'est une angoisse à chaque fois que je dois consulter le témoignage d'une patiente, libération.fr, 8 janvier 2016 ». Décrivant les commentaires insultants infligés à des patients et patientes en surpoids. Ces commentaires déplacés que les personnes en surpoids subissent parfois quotidiennement sont d'autant plus humiliants quand ils viennent d'un professionnel de santé dont la mission, rappelons-le, est de soigner sans discrimination. Cette attitude n'incite pas, on le comprend, les personnes ainsi échaudées à retourner consulter des médecins qui imputent, à tort le plus souvent, tous leurs problèmes de santé. Tous leurs problèmes de santé au poids et tiennent un discours constamment culpabilisant. En 2015, sur le blog L'École des soignants, j'avais publié un message intitulé « Ne nous jugez pas ». Son auteur, au féminin, racontait les humiliations que de nombreux médecins lui avaient fait subir en parlant de son poids et sa joie devant un praticien qui, disait-elle, lors d'une visite de la médecine du travail, lorsque j'ai passé l'épreuve de la balance, n'a rien dit à l'annonce de mon poids, rien, et c'est ce silence qui a fait que 2 mois après, je suis allé chez un nutritionniste parce qu'il n'y avait eu ni jugement de sa part, ni remarque idiote sur « vous connaissez manger, bouger, hein, FR », ni pitié, rien. Parfois, le respect consiste à ne rien dire. Ainsi, on est sûr de ne pas blesser. Un jugement de valeur, en revanche, est toujours l'expression d'un manque de respect. Venant d'un médecin investi de confiance, c'est déplorable et le signe d'un flagrant défaut de professionnalisme. De plus, c'est tout à fait contre-productif car cela compromet toute possibilité pour le médecin d'apporter quoi que ce soit au patient qu'il a ainsi blessé. En 2015, toujours, le British Medical Journal, l'une des publications médicales les plus respectées au monde, publiait le texte d'une patiente exprimant exactement ce qu'elle, et probablement l'immense majorité des patients en surpoids, attend d'un médecin. Premièrement, concentrez-vous sur ce que le patient est venu vous demander aujourd'hui. Si vous ne faites que ça, vous aurez déjà fait du bon travail. Réfléchissez à deux fois avant d'offrir, sans sollicitation, des conseils entre guillemets éducatifs, surtout quand votre patient vous consulte pour autre chose que son poids. Si vos patients entendent toujours les mêmes conseils éculés à chaque consultation, ils perdront toute signification. Et si vous insistez pour aborder un sujet qu'ils trouvent douloureux, vous pourriez les dissuader de vous demander conseil dans l'avenir. Deuxièmement, il est approprié de donner des conseils diététiques ou d'exercices quand un patient vous le demande clairement. Mais essayez de vous concentrer sur les autres bénéfices d'une alimentation saine et de l'exercice au lieu de considérer la perte de kilos comme une fin en soi. Ainsi, vos patients ne seront pas découragés d'adopter des habitudes saines, même si celles-ci ne donnent pas de résultats durables en termes de perte de poids. Troisièmement, les personnes en surpoids savent qu'elles sont en surpoids. Elles savent. Donc, vous n'avez pas besoin de nous le dire. On a entendu ça toute notre vie. Beaucoup d'entre nous ont été traumatisés par les appels constants à une culture de la maigreur et par la manière dont vous semblez trouver que notre corps est honteux. Fin de la citation du British Medical Journal. Parfois, les jugements se doublent de contre-vérités éhontées. À de nombreuses reprises, j'ai reçu des messages de jeunes femmes me demandant s'il était vrai qu'un médecin n'avait pas le droit de prescrire une pilule à une mineure. Celui qu'elles avaient consulté leur avait refusé en arguant que leurs parents pourraient porter plainte contre lui. C'est un mensonge. La loi de 2001, qui a également supprimé l'obligation d'une autorisation parentale pour l'IVG et en avait rallongé les délais, stipule précisément « Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou le cas échéant du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures. » La délivrance de contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, sont protégés par le secret pour les personnes mineures. Mais mentir est plus facile que refuser son motif.
Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ?
Alors la semaine prochaine, je ne serai pas là.
D'accord.
Voilà. Ça sera pour le 27, le prochain l'automne, pour le 27 août.
Ok, donc d'ici là, tu ne sais pas encore si tu seras avec André ou...
Si, je... Non, oui, là, il n'y a pas de prévu.
Voilà, ce sera une surprise.
Voilà.
Bah, à bientôt, en tout cas.
Merci d'être passé. C'est ainsi que finit l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous allons écouter maintenant l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée.